Acte 15. On passe la moitié des actes des apôtres. Et puis, dans Acte 15, vous avez lu ce texte, il y a comme un coup de frein qui est là. Un coup d'arrêt à l'annonce de l'Évangile. Et ce coup de frein, il est nécessaire. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais passer en revue Acte 15 sans trop m'y attarder. Ésaïe 53, c'est pas ça. Il faut que j'installe mon bureau. Attendez. Non, je ne mets pas ma Bible de côté. J'ai le texte qui est là, comme vous avez pu peut-être le télécharger. Alors, Acte chapitre 15, voilà, j'y suis. Au niveau de la datation, on est aux environs des années 51-52, donc le premier siècle. Ça commence à dater là aussi. Mais ce que vivent nos frères et sœurs des premières générations de chrétiens, c'est tout aussi pertinent, c'est pertinent pour nous aujourd'hui. C'est la fin du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. L'apôtre a fait plusieurs voyages, il a été envoyé par le Saint-Esprit, reconnu par l'église locale d'Antioche, et puis il est envoyé avec son fidèle camarade qui s'appelle Barnabas. Donc Barnabas et Saul, pendant de longues années, sont indissociables dans leur mission. Quel est l'objectif principal de la mission qu'ils ont ? Ben, c'est d'annoncer l'Évangile. À quoi on reconnaît un ministère ? C'est à ce qui brûle dans son cœur. Et pour être un peu concret, quand on reçoit des ministères extérieurs à la paroisse, avant cela, soit Catherine, soit moi, on leur demande, ils nous demandent souvent qu'est-ce qu'il faut prêcher, qu'est-ce que vous vivez. Alors moi, j'aime bien leur répondre, mais qu'est-ce qui brûle sur ton cœur ? Parce que je pense que c'est ça qui est important. C'est que le ministère en question, il est bien disposé en disant, mais qu'est-ce qui serait à annoncer ? Eh bien non, je lui dis, mais écoute le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur ? Et c'est là qu'on bénéficie, je pense, d'un apport qui va nous faire grandir. Ministère extérieur. Dans le précédent chapitre, acte 14, j'ai prêché assez longuement sur ce qui se passait à partir de acte 14, c'est-à-dire que Paul vit la persécution avec Barnabas aussi, et en même temps il implante des églises, et cette persécution elle est en grande partie due à ce qu'on appelle soit des judaïsants, je vous réfère à cette prédication, ou soit carrément des juifs qui sont là, qui ne reçoivent pas le message, ils sont encore bloqués dans l'Ancien Testament, et peut-être qu'ils voient leur banc de synagogue se vider. La synagogue se vide, les bancs sont, voilà, le Shabbat, il n'y a plus personne, et tout le monde va écouter l'apôtre Paul et Barnabas. Donc voilà, il y a une persécution qui s'ensuit contre les serviteurs de Jésus-Christ qui sont là. Et puis, Paul et Barnabas, une fois qu'ils ont implanté plusieurs églises, ça se passe sur plusieurs années, ils établissent des anciens. Et je fais la différence, le dimanche, il y a 15 jours, entre ministère et anciens. Les anciens, ce sont ceux qui ont la responsabilité d'une église, une communauté locale. On les appelle des anciens dans les Écritures. Et puis, il peut y avoir dans ces anciens des ministères. Et parmi eux, et dans les ministères, il y en a cinq types. On appelle ça aussi le quintuple ministère. J'avais utilisé plusieurs images, l'image de la main avec le pouce qui serait l'apôtre, l'index qui serait le prophète, qui montre... qui dénonce des choses, par exemple, le majeur qui est l'évangéliste qui va chercher loin les âmes perdues, le pasteur qui met un équilibre et qui rappelle l'alliance que j'ai sur mon doigt, l'alliance avec Dieu, la richesse, etc. Et puis le docteur qui donne l'équilibre à l'église locale par son enseignement. Alors peut-être vous allez dire, ouais, mais à Honnay, on n'a pas 5 ministères, donc on ne peut pas grandir comme il faut. Alors ce qui est important, c'est que l'expression de ces 5 ministères soit là. La veine apostolique, la veine prophétique, la veine d'évangéliste, la veine de pasteur et la veine d'enseignant ou docteur. Alors j'espère que c'est assez clair, parce que c'est vraiment important. Il y a des communautés qui disent « nous on ne veut pas de ministère, tout le monde est au même niveau devant Christ ». Alors ils font une erreur de se priver des ministères que Dieu donne, que Jésus envoie. Et puis, à l'inverse, il y a des communautés qui sont très pyramidales, où les ministères, c'est des intouchables. Je suis allé dans une église, une fois, il y avait presque un trône pour le pasteur. Alors, il y a un aspect culturel qui est là, qui est comme ça, mais c'est, voilà, on n'ose pas toucher loin de l'Éternel, celui qui est loin de l'Éternel. Et c'est juste à quelque part, puis en même temps, ben, c'est un être humain comme vous et moi. Quand Corneille vient se prosterner devant Pierre, et c'est quand même Saint-Pierre, Pierre, il dit, mais lève-toi, je suis un homme comme toi, arrête, arrête ton cirque. Voilà, mais il y a un grand respect qui est là, etc., donc il y a des choses. Alors, ce n'est pas que les ministères, il faut leur faire une tape dans le dos en disant, t'es mon pote pour toujours, parce qu'il faut pouvoir, il faut qu'ils puissent donner de la part de Dieu ce qu'ils ont reçu, et que ça doit être accueilli comme tel. Voilà, petit résumé un peu de acte 14. Nous plongeons maintenant dans Actes chapitre 15. C'est donc la fin du premier voyage de Paul et Barnabas. Ils ont évangélisé, ils ont ouvert plusieurs communautés chrétiennes et ils ont établi des anciens. Que se passe-t-il dans ce chapitre ? Alors, il y a un coup de frein qui est là, à l'annonce de l'évangile en terre païenne. Pourquoi ? Parce que des gens viennent de Judée, de Jérusalem. La Judée, c'est le berceau de la foi chrétienne, on peut dire ça comme ça, vous le savez, je pense. Il y a des gens qui viennent, qui habitent cette région, donc peut-être qu'ils se disent, ah, mais nous, on est les premiers croyants, là, on est des gens que Dieu a choisis en premier. Et puis, ils vont jusqu'à Antioche, c'est la Turquie actuelle, dans l'église de l'apôtre Paul et des anciens qui sont là. Et puis, ils commencent à semer le trouble. Et c'est quoi ce trouble ? Tout d'abord, ces gens qui se sont convertis ont reçu l'évangile de la grâce. Quoi, on est sauvé seulement grâce à l'amour de Dieu qui s'est exprimé à la croix de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il nous pardonne. C'est formidable. Les gens se convertissent. Ils comprennent l'évangile, ils se convertissent. Ils se font baptiser, etc. Et puis ces gens de Judée, là, qui voyagent, commencent à annoncer, entre guillemets, un autre évangile. Quel est cet autre évangile ? Et c'est dans le texte de Acte 15. Ok, pour être sauvé, c'est bien la croix de Jésus, mais il faut toujours faire attention quand il y a un évangile qui est annoncé et il y a un mais à la suite, mais vous devez vous faire circoncire. Autrement dit, tous, vous devez observer la loi de Moïse, judaïque. Circoncision, ça veut dire toute la loi. Hein, ce n'est pas seulement les hommes qui doivent passer au scalpel. Là où vous pensez, et moi aussi, mais c'est toute l'application de la loi, des commandements. Et bien sûr, on pense aux hommes en premier, mais quand vous allez en Israël et que vous allez dans des zones où il y a beaucoup d'orthodoxie judaïque, à Jérusalem par exemple, moi j'ai un serment au cœur, quoi. Je vois ces femmes qui sont sous un joug qui est là, il faut se purifier sans cesse, il faut nettoyer sa maison, à fond, de fond en comble, il faut observer les règles, les rites, etc. Franchement, je ne comprends pas. Il y a des fois des chrétiens qui disent « Ah, la loi juive, c'est formidable. Attends, t'as pas bien vu, hein, mon gars. Il faut creuser le truc, quoi. » Et du reste, plus tard dans le texte, l'apôtre Pierre, il fait une petite parenthèse. Il dit, mais il reproche à ces gens, mais il dit « Pourquoi vous voulez qu'on observe la loi alors que ni vous ni moi ni nos ancêtres n'ont réussi à observer cette loi tellement contraignante. » Donc c'est même Pierre, il avoue que cette loi, elle est bien belle, mais tous les commandements, on a tous failli par rapport à ça. Tout ça pour dire que voilà, la grâce de Dieu est bien supérieure à toute la loi. Voilà. Donc il y a ces hommes de Judée qui viennent et qui sèment le trouble. Imaginez, vous êtes là, vous entendez un autre évangile, la croix, oui mais. Il y a des communautés, là je pense à quelques-unes dans mes pensées, qui disent, oui, la croix à l'évangile, mais tel régime est important, alimentaire. Tel habillement est tout aussi important. C'est pas dit si tu veux être sauvé, mais presque ça, quoi. Donc il faut quand même réfléchir et puis prendre un peu du recul dans nos communautés, dans nos églises, à ce qu'on annonce. Hein. Revenir toujours à la réforme qui nous dit qu'il y a seulement la grâce, seulement la parole, seulement une seule foi. Voilà, vous connaissez peut-être tout cela. Mais du coup, ça provoque une grande tension. Puis Paul, comme c'est un sanguin, j'imagine que ça a dû l'énerver plus d'une fois, en plus qu'il avait été persécuté par cette branche-là, plus ou moins, quelques temps avant. Alors la décision est prise à Antioche. Ok, on n'arrive pas à régler le problème. On va envoyer des délégués à Jérusalem et puis on va consulter les apôtres. Ce sera plus simple. On va demander à l'équipe apostolique, qui est notre référence doctrinale et spirituelle, et on envoie des délégués. Et qui est choisi ? Eh bien, il y a quelques judaïsants dans le lot, des gens qui disent « il faut observer la loi », puis en même temps, il y a Paul et Barnabas. Voilà, c'est des voyageurs, ils ont l'aisance de voyager, et on les envoie à Jérusalem. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, ce voyage, mais ce n'est pas comme avec EasyJet, où en deux temps, trois mouvements, vous êtes à Jérusalem. Mais voilà, ça prend du temps. Ils arrivent à Jérusalem, on convoque l'assemblée, les anciens, les ministères qui sont là, tout le monde est convoqué et on écoute ce qui s'est passé. Je fais un petit peu court. On écoute le témoignage de Paul et de Barnabas. Mais avant cela, puisque le même débat est à Antioche et il est à Jérusalem sur est-ce qu'il faut observer la loi ou pas, eh bien, on écoute d'abord le témoignage de Pierre. Et Pierre, il ne parle pas en tant que membre du collège des anciens, mais il parle en tant que celui que Dieu a utilisé pour ouvrir la porte de la foi aux païens. Et il leur dit, rappelez-vous, Dieu m'a choisi, c'est pas moi qui m'ai choisi, j'ai annoncé l'évangile chez Corneille, et Corneille, c'était un sympathisant du judaïsme, mais il n'était pas converti, il n'était pas né de nouveau, et puis Dieu a béni ce ministère, ils ont été remplis du Saint-Esprit comme moi. Après, on fait parler l'apôtre Paul et Barnabas, et ils racontent ce qu'ils ont vécu. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ils n'ont pas autorité pour dire « maintenant, c'est comme ça qu'il faut croire », mais ils racontent et ils témoignent de ce qui se passe. Et en finale, c'est un du collège des anciens qui se lève, c'est Jacques. L'apôtre Jacques se lève, c'est lui le primus inter pares, c'est lui qui aura quelque part le mot de la fin, et il parle avec sagesse et avec autorité. Dieu l'a oint pour cela. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il cite un texte du prophète Amos qui montre que la volonté de Dieu, c'était que les païens se convertissent et se tournent vers Dieu. Il cite Amos, donc il prend un prophète et puis il donne des indications pratiques. Il dit, bon, pour régler le problème avec les judaïsants, voilà ce que je conseille. Je propose qu'on leur écrive une lettre. On dit que ces judaïsants, ce n'est pas nous qui les avons envoyés. On ne les a pas mandatés pour aller à Antioche, donc c'est des ministères cavaliers seuls, solitaires, et ils ne dépendent pas de nous. Et on donne quelques indications pratiques, puisque vous êtes en terre païenne, ne mangez pas des viandes sacrifiées aux idoles, ne buvez pas le sang, ne mangez pas le sang, et puis deux, trois choses qui sont liées au contexte des églises, enfin des frères et sœurs païens. Ce n'est pas le même contexte qu'à Jérusalem. Et ça, ça met le point final. Tout le monde est d'accord avec ça. La paix vient à l'église de Jérusalem. Ils écrivent la lettre, et puis le bonheur qu'on a, c'est d'avoir cette lettre. Vous rendez compte, si on n'avait pas cette lettre, on serait tous circoncis, plus ou moins. Vous auriez, mesdames, vous auriez le joug de la loi judaïque, mais grâce à Dieu, on a cette lettre qui est pleine de grâce, de sagesse, et qui raconte ce qui se passe. Relisez-la, elle est très intéressante, et cette lettre. Donc, la lettre est validée, et puis on envoie des délégués. Ceux qui seront les facteurs, c'est Jude et Silas, deux potes qui sont très estimés, qui sont de valeur, qui ont un ministère de prophète. Et puis, il y a Paul et Barnabas qui ne tiennent pas en place. Il faut qu'on aille évangéliser. C'est quand cette histoire que ça finit ? J'interprète ça comme ça. Mais Paul va beaucoup creuser, il sera le docteur de l'Église pour cela. Ils portent la lettre avec eux, ils arrivent à Antioche, la lettre est lue, donc on ne sait pas qui l'a lue, c'est certainement pas Paul, Barnabas, Jude ou Silas, c'est les anciens, certainement, de l'église d'Antioche, ils la lisent, et puis comment est accueillie cette lettre ? Eh bien, nos judaïsants, leurs judaïsants, quittent la porte, la tête basse, et cette lettre, elle produit un concert de louanges. Ah ! On n'a pas besoin d'adopter cette loi. Et c'est génial. Dieu, nous, voilà, il y a une délivrance. Il y a eu certainement dû avoir beaucoup de prières, beaucoup de grâces qui étaient là. Mais imaginez, on essaie un peu d'imaginer le contexte. Imaginez que voilà, vous vous êtes converti, vous avez découvert l'amour de Dieu, la croix. Puis on vous dit, toutes les erreurs de l'histoire de l'Église qu'il faut appliquer maintenant. Vous devez payer des indulgences. Vous savez, ce n'est pas biblique, les indulgences. vous devez faire des messes pour les morts, vous devez adorer des statues, vous prosterner devant des icônes, lire les chapelets, et j'en passe, et des meilleurs, tout ce qu'on a, on a aussi peut-être dans nos églises évangéliques, et là on a besoin que Dieu ouvre nos yeux, qui sont comme une pression qui est là, pression pharisaïque. Et voilà, et puis vous recevez à nouveau la révélation du message de l'évangile. Tu peux être sauvé seulement par la foi. Foi dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu qui a donné Jésus pour tous tes péchés. Et c'est pas merveilleux ça? C'est génial, c'est la puissance de l'évangile pour le salut de quiconque croit. Mais c'est pas des jougs, des règlements qui vont faire quelque chose. Voilà, les règlements d'application, c'est bien, mais voilà, ça nous aide à mieux vivre ensemble, mais ça n'a pas valeur doctrinale. Donc cette lettre-là, on l'a plus, l'original, mais elle est reprise dans Acte 15. Et donc ça produit un concert de louanges pour les églises païennes, là, à Antioche. Lecture, grande joie. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on prêche la grâce de Dieu? Eh bien, ça libère les ministères de Christ. Et ce qui fait qu'au verset 32, on a les deux gaillards, là, Jude et Silas, Jude et Sylvain, qui se lèvent et qui exercent leur ministère. Et leur ministère propre, c'est qu'ils sont aussi prophètes. La Bible dit, Jude et Silas, au verset 32, qui étaient eux-mêmes prophètes. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Des prophètes, ils prophétisent. Tout à l'heure, avec Thérèse, je lui ai demandé qu'on finisse le message avec un temps qu'on appelle le ministère. Et si le Seigneur met quelque chose sur nos cœurs, à elle et à moi, on donnera des paroles. Vous êtes d'accord avec ça? Merci. Voilà, il faudra qu'on ait votre confiance, hein, parce qu'on veut bien donner des paroles du Seigneur, pour autant que ce soit des paroles du Seigneur. Voilà. Mais je vais vous expliquer comment on fait pour... voilà, quand il y a des paroles comme ça, comment ça se passe? Comment le Seigneur aime que ça se passe? Voilà. Jude et Silas, pardon, qui étaient eux-mêmes prophètes, et ils prophétisent. Et voilà qui fait grandir les individus, qui fait grandir les membres de la communauté locale. Quel dommage quand les églises disent, ou les autorités d'église disent, oui, les dons spirituels, c'est bien, mais voilà, c'est pas utile, on a la parole de Dieu. Quelle tristesse, je crois, pour le Saint-Esprit, alors qu'il veut exprimer le don prophétique et les ministères prophétiques. Bien sûr, c'est pareil pour les 50 ministères. Là, il ne faut pas se priver des 5. Et commence ensuite, vous avez vu, la deuxième partie de ce passage. Là, je fais assez rapidement. Paul qui ne tient pas en place, hein, c'est lui qui a dit « Malheur à moi si je n'évangélise ». Voilà, il faut maintenant repartir. Allez, on a assez causé avec tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, Barnabas? Qu'est-ce que tu penses? Là, j'ai à cœur qu'on fasse un nouveau voyage missionnaire avec la bénédiction de l'Église. Ça coince un peu, parce qu'il y a Barnabas qui est tellement gentil, il veut prendre Marc avec lui. Hein, c'est toujours en équipe de ministère là, qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Puis Marc, Paul, il est un peu rancunier parce que Marc, il les a lâchés une fois. Et c'est Jean-Marc dans les Écritures. C'est celui qui sera le secrétaire de Pierre, qui va rédiger l'évangile de Marc. Et puis Marc, on ne sait pas trop pourquoi, mais... Il a lâché l'affaire un jour. Il a lâché le ministère. Puis Barnabas, il veut lui donner une seconde chance. Puis Paul, il dit, zéro chance. Tu nous as lâché, t'as été... voilà, maintenant, c'est fini. Alors du coup, Barnabas et Paul, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et puis on appelle ça les querelles de chef. Vous avez déjà vu ça? C'est dans le monde hein, aussi. Il n'y a pas que Paul et Barnabas. Il y en a qui a une idée, il est tronchu, et puis l'autre une autre. Et voilà, bon... Mais quand même, ils décident de se séparer, mais le petit texte biblique dit que la discussion était assez vive. Puis on a quand même des gens là, chez Paul et Barnabas, du Moyen-Orient. Donc les discussions, c'était vif, ça a dû être vif. On demandera à Saul de Tarse quand on le verra là-haut. Dis donc Paul, c'était quoi les mots que tu as utilisés pour Barnabas? Je ferme la parenthèse. Alors Barnabas, ben voilà, il est peut-être plus cordial, il prend Marc avec lui. Ils sont d'accord d'être pas d'accord, c'est déjà un grand pas. Et Barnabas va retourner à Chypre, chez lui, avec Marc, ils vont encourager les églises. Et puis Paul et Silas, ils demandent la prière d'Antioche et puis ils vont être envoyés à nouveau pour le second voyage. Ça, c'était la première partie que je voulais vous partager. Et j'aime bien cette histoire des Actes, parce qu'elle est très concrète. Et on voit des êtres humains qui sont là. Paul, voilà, il a son caractère, Barnabas aussi, Dieu fait avec, et qui, comme dit un philosophe, il dit Dieu fait des, droite avec les courbes de nos vies. Dieu arrive à quand même à s'en sortir malgré mon humanité et la vôtre aussi. C'est sympa, hein, Dieu est bon, Dieu fait grâce. Concrètement, pour nous, ce soir, dans quoi on veut aller ? Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. J'aime bien ce verset qui est là, qui est glissé, ça vibre en moi. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes. C'est quoi ou qu'est-ce que n'est pas un prophète dans le Nouveau Testament ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Ce n'est pas un voyant. Ah, dans telle église, il y a un prophète. Je vais lui donner 100 balles, il va me donner une prophétie pour ma vie. Non, non, oubliez ça. Alors, vous pouvez quand même lui donner 100 francs, ça n'empêche pas. Un ministère peut être béni, 100 francs ou autre chose. Mais ce n'est pas un voyant comme ça. Ce n'est pas une machine où on tire une parole et puis voilà, Dieu me guide comme ça. Ce n'est pas une personne infaillible. Ou un jour, un prophète ou une prophétesse m'a dit. Vous voyez ? Ce n'est pas une personne infaillible. Il peut donner un message de la part de Dieu ou elle peut donner un message de la part de Dieu qui est là, une parole inspirante, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est au sommet de la pyramide et qui ne faillit jamais. C'est quelqu'un comme vous et moi, mais qui a ce ministère particulier. D'accord ? J'irai plus loin tout à l'heure avec ça. Un prophète dans le Nouveau Testament, c'est pas quelqu'un qui est cavalier seul, qui fait cavalier seul. On a des équipes de prophètes. Vous voyez, Agabus, on a déjà parlé dans Acte 11, il donne une parole à l'apôtre Paul, il donne une parole à l'Église, et puis l'Église va considérer cette parole comme venant de Dieu. Puis peut-être qu'Agabus, c'était un gars pénible, peut-être que c'était un gars qui avait ça le caractère, je ne sais pas exactement, hein, mais c'était quelqu'un qui, ou peut-être c'était quelqu'un de super sympa, on ne sait pas, c'était un être humain comme vous et moi, mais il y a quelque chose qui vibrait en lui. Et il communiquait, il était prophète, nous disent les Écritures. Voilà ce que n'est pas un prophète. Ce qu'il est maintenant, un prophète ou une prophétesse, vous choisissez, c'est une bénédiction. Amen. Vous pourrez redire ça après moi ? Un prophète, c'est une bénédiction. Voilà, déjà, ça met le cadre. L'Apocalypse nous dit dans Acte, je crois, chapitre 19, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, c'est d'abord pour les Écritures, mais quand il y a des prophéties qui sont données, inspirées du Saint-Esprit, c'est que Jésus montre qu'il est vraiment vivant et qu'il est le chef de l'Église. C'est lui le grand patron. Et il communique des messages inspirés comme ça. Peu importe le messager quelque part. Mais ça, c'est bon. Et ça, c'est génial. Et on veut cela. Et moi, je veux ça. Et j'ai été engagé en bonne partie à Aunay aussi pour libérer cela. C'est une personne qui apporte un message d'inspiration divine. Quelle grâce extraordinaire. Dieu nous parle, veut nous parler par des prophéties. Une prophétie, c'est une petite grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est une grâce qu'il nous fait. J'ai reçu des prophéties, peut-être vous aussi, qui ont été comme des jalons sur ma vie, qui étaient là comme pour marquer quelque chose dans ma vie, qui m'ont ouvert à quelque chose. Et je m'en souviens d'une, j'étais jeune croyant dans l'église où nous étions avant, avec Anne. Un prophète arrive de nulle part, je ne savais pas ce que c'était un prophète qui était là. Je me dis, oh, il y a quelque chose de particulier. Je sentais que quelque chose, cet homme, c'était un homme de Dieu. Du coup, j'avais la frousse. Je me dis, oh là là, c'est qui lui ? Après, il est devenu assez proche. Quelqu'un que j'estimais beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi et pour d'autres, bien sûr. Et puis, il prophétise à la fin de son message et puis il dit, dans cette direction de l'assemblée, il y a quelqu'un qui est là, c'est pas le pasteur. Il donne cette parole-là. Et j'étais à ma place, je suis tombé à ma place. Mes jambes, je ne sentais plus mes jambes, ce n'était pas l'émotion. Mais comme si le Saint-Esprit, enfin comme si, je crois qu'il est venu sur moi, et il a attesté cette parole qui était là. Je ne la recherchais pas, cette parole, mais voilà, il y a eu des éléments qui étaient là. J'ai écrit cette parole après, elle est toujours dans mon livre prophétique, de prophétie, qui est là. Et puis, une autre fois, cette même personne nous a fait avancer avec Anne, je ne sais pas si tu te souviens, et puis on est aussi tombé dans l'Esprit. Nos yeux, enfin voilà, on sentait vraiment la présence du Saint-Esprit, des signes incompréhensibles quoi, étaient là. Des fois, quand le Saint-Esprit agit, on ne peut pas tout analyser. Mais voilà, je me suis lâché dans l'Esprit. Et puis, en couple, on a reçu un appel particulier à ce moment-là. Merci au Seigneur pour ce prophète. C'était Ismaël Sadok. Donc c'est un homme envoyé par Jésus. Jésus dit dans Matthieu 23, 34, « Je vais vous envoyer des prophètes et des docteurs. Vous crucifierez les autres, les uns, vous persécuterez les autres. » Donc Jésus envoie, et des fois c'est pas populaire, parce qu'ils reprennent. Un prophète peut reprendre l'Église, du style « Mais vous êtes tiède. » Ça peut être une parole prophétique. Par contre, la parole prophétique peut dire « Ok, vous êtes tiède, mais revenez. » Revenez au bien-aimé, revenez à l'élu de votre cœur, revenez à celui qui vous a choisi. Ça peut être un style de parole prophétique où il parle à l'ensemble de l'Église. C'est ce qui s'est passé dans l'Église de Laodicée. Revenez, revenez, hein, vous êtes tiède, revenez. Voilà une parole de Jean le prophète. Les prophètes ont souvent la caractéristique d'être des hommes ou des femmes de prière et de foi. De prière et de foi. On m'a raconté cette histoire, enfin j'ai lu cette histoire à Kansas City, là où il y a Manu, il y a bien des années, un prophète arrive, il ne savait pas ce que c'était les prophètes, le prophète arrive, il dit « Est-ce que je peux voir le pasteur ?» Le pasteur ne le connaissait pas, il ne croyait pas qu'il y avait des prophètes, ou voilà, c'était fini les prophètes. Il arrive, il dit « Le prophète, tel jour, il va neiger, tel jour, et ce n'était pas la saison, ce n'était pas l'hiver, tel jour, il va neiger, et ça sera un signe pour toi que les prophètes existent et que Dieu veut te donner des prophètes dans ton église. » Alors Mike Bickle, pasteur responsable, il dit « Qui c'est celui-là? On verra bien. » Mais il a quand même enregistré ça. Vous voyez, des fois, on est un peu incrédule. Il a quand même enregistré ça. Le jour J, je crois qu'ils avaient oublié la parole du prophète, et ils sont en réunion de conseil, ils regardent par la fenêtre, il neige. Paf! Mais c'est le printemps, il neige pas à cette époque-là. Ils étaient tous surpris et la parole qui revient à leur cœur. Oh, Seigneur, pardon, etc. Ça a engendré un mouvement prophétique qui dure toujours aujourd'hui, intense. Intense. Une parole qui ouvre l'Église à la repentance et à l'accueil. Un homme de prière et de foi. Un homme de la parole aussi. Parce qu'il est écrit que celui qui prophétise le fasse en analogie, en accord avec la foi. Et la foi vient de la parole des Écritures. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures, qui connaît et qui aime la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aime et recherche la présence de Dieu et la sainteté de Dieu aussi. Et parmi nous, il y a un prophète qui a été reconnu dans les églises libres, c'est Étienne Rocha. Et Étienne, en fait, une des caractéristiques qu'il a, où il a en plus des dons musicaux, c'est qu'il se met au piano, et puis qu'est-ce qu'il recherche? Il ne cherche pas à faire chanter l'assemblée d'abord, mais il recherche la présence de Dieu. Et il a compris que la présence du Saint-Esprit peut être favorisée avec une musique inspirée. Élisée le prophète dit « Amenez-moi un musicien ». C'est peut-être déjà lu ce passage-là. « Amenez-moi un musicien, il faut que je prophétise, il faut être dans l'Esprit-Saint pour cela ». Je ferme la parenthèse. Et puis surtout, pour moi, le critère principal, c'est un homme qui aime l'église locale. Il y a un an et demi à peu près, on a reçu un couple de prophètes. Deux gars qui étaient là, Eugène et puis son ami, je ne sais plus son... C'est vraiment des gens qui aiment l'église locale. Et ils ont comme ça donné des paroles qui étaient, voilà, je pense, en tout cas dans ce que je n'ai entendu, vraiment inspirées. Vraiment inspirées. Et puis, enfin bon, non, je fais ma parenthèse, c'est assez drôle des fois. Un jour, on était à l'école biblique, il y a un couple de prophètes qui vient, le mari et la femme qui sont là, les Huck. Et puis, Madame Huck, Claire-Lise, Claire Huck, comme ça, elle voit le doyen, Olivier, le doyen, je crois qu'elle le fait lever, et puis lui dit, je vois dans ta tête, c'est comme un ordinateur. Puis tous les étudiants, on s'est tellement marrés, mais elle ne pouvait pas savoir. Parce qu'Olivier, c'était un fan d'ordinateur. Et il était vraiment organisé, très efficace. Il était fan d'Apple, etc. Je vois ta tête comme, dans ta tête, il y a comme des dossiers, comme un ordinateur, etc. On s'est tous marrés, voilà. Et après, il y avait une parole, je ne sais plus ce que c'était. Pourquoi je disais ça? Parce que parfois c'est drôle au niveau des paroles prophétiques. Les gens, on peut savoir, on peut connaître telle personne, mais le prophète il sait pas. Quand il sait pas, c'est voilà, il y a quelque chose de tellement surprenant avec le Seigneur. Quel est son message au prophète? 1 Corinthiens 14 verset 3. La prophétie édifie, exhorte, elle console. quand il y a une parole de Dieu qui est donnée par prophétie, eh bien, il y a une action similaire dans le cœur de la personne à qui c'est destiné, ou de l'Église. Il y a une attestation du Saint-Esprit, et ça c'est pour vous, ça c'est pour toi. Une consolation. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, rappelez-vous, à Antioche, il y a eu des persécutions. Ben, peut-être qu'il y avait une forte parole de Jésus, le berger, le bon berger, qui était là pour l'Église, à travers Jude, à travers Silas. Quelque chose que l'homme ne peut pas donner, mais que le Seigneur Jésus donne spécifiquement à cette communauté. C'est trop bien ça, hein ? Jésus est vivant, hein ? Je dis, la prophétie, c'est Jésus qui est vivant et qui se manifeste. Il faut faire une différence entre le prophète vétérotestamentaire, Ancien Testament, et le prophète du Nouveau Testament. Dieu a donné dans l'Ancien Testament des prophètes, ou des prophétesses aussi, dont les messages étaient 100% inspiré, les prophètes qui ont écrit dans les Écritures. Il y avait un taux d'inspiration à 100%. On pouvait être sûr que cette parole venait de Dieu. Pourquoi ? Parce que les autres membres du peuple n'avaient pas accès à Dieu. Donc Dieu parlait au travers des prophètes. Hébreux chapitre 1, après avoir autrefois parlé par les prophètes, maintenant Dieu parle par le Fils. Alors ce verset, il ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prophètes, mais il veut dire que Jésus s'exprime à travers des ministères prophétiques aussi. Dans le Nouveau Testament, il y a le ministère de prophètes et il y a aussi la prophétie. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut tous prophétiser quand l'Esprit le décide. L'onction est là et tous, on peut recevoir la pensée de Christ. Donc, comme dit Moïse, puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Ce serait tellement génial si tout le monde entendait la voix de Dieu. Mais il y a quand même des prophètes qui sont là établis avec une autorité prophétique particulière. Mais tous, par exemple, à la réunion de prière, dans les petits groupes, on peut avoir une pensée du Seigneur qui est là, une parole qui est là, quand l'Esprit de Dieu est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut la donner. Je vais expliquer pourquoi après. Nous avons tous la responsabilité. Donc imaginons, il y a un prophète qui vient, la prochaine fois que viendra peut-être Eugène May, on verra. Eh bien, voilà, on le considère, on l'accueille comme prophète, et puis il va donner des paroles, c'est son ministère. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il donne ses paroles ? Vous avez le droit, et moi aussi, d'appliquer le filtre de la parole de Dieu de 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est quoi ce filtre ? Je crois que c'est peut-être le meilleur mot qu'on a trouvé jusqu'à présent. Eh bien, le filtre, c'est est-ce qu'il me donne une parole qui est biblique ? Je prends un exemple. Un prophète arrive. Et il me dit, Laurent, je vois que le Seigneur va te donner une nouvelle femme. Qu'est-ce que je fais ? Je saute de joie ? Si je sautais de joie, oh là là, qu'est-ce que je fais ? Je prends, c'est un peu gros, hein, mais je fais exprès. Je prends mon sac poubelle, 35 litres, il y en a déjà dedans. Je prends mon sac poubelle, je dis... Ok, directement à la poubelle cette prophétie. Pourquoi ? Parce que j'ai fait, dans la Bible, c'est marqué que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je ne vais pas me séparer de Anne, plus elle est ma bien-aimée, patati, patata. Elle est mon épouse, elle est mon autre moi, etc. Bref, donc directement, ce genre de prophétie, ça va à la poubelle. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas eu ce discernement et qui ont dit « Ah, chouette, un nouveau conjoint, super, Seigneur !» Et puis ils ont oublié que, voilà, toutes les considérations bibliques. Donc, ayez un sac poubelle prophétique, entre guillemets, prophétie, ce n'est pas des prophéties. Ça, c'est l'adversaire qui veut séparer, diviser et détruire. D'accord ? Quand bien même, ça serait un ange qui vous donnerait cette prophétie. Vous avez le droit d'exercer votre jugement par rapport à cela. Vous avez vu que j'ai d'autres sacs, bien sûr. Voilà, autre prophétie qui peut être donnée. On me donne une prophétie, je ne la comprends pas, je ne vois pas à quoi elle fait référence. Mais intérieurement, j'ai un peu l'impression que Dieu est en train de me parler. Je ne comprends pas ce que ça veut dire exactement, c'est peut-être une image. Et Dieu a le droit de nous parler par des images qu'on ne comprend pas tout de suite. Il va falloir réfléchir, demander des confirmations au Seigneur. On a le droit de demander, de dire au Seigneur, écoute, petit peu sourd, là, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu me connais, donne-moi des confirmations. Puis dites pas votre prière à toute l'Église, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, écoute, j'ai reçu ça pour toi. Non, laissez faire le Saint-Esprit. Il connaît parfaitement nos vies. Et vous prenez votre sac prophétie, mais je ne comprends pas. Bon, c'est des nerfs, hein, c'est pas... mais bon, c'est un peu Noël, voilà. Il est un peu mieux que le sac poubelle, hein, on est d'accord. Puis vous mettez ça là-dedans. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas tout. Est-ce que ça vient de toi ou pas? Alors, je ne m'emballe pas. Vous voyez, on peut recevoir des grandes prophéties qui vous disent, tu vas voir, tu vas voyager, etc. Seigneur, je n'ai pas à cœur de voyager, est-ce que c'est juste ou pas? Mais ce genre de prophétie, elle peut éclore plus tard. Elle peut éclore. Un jour, il y avait un prophète, Lilacos, qui est venu, qui a dit à un pasteur, il a dit, tu vas passer par une période de souffrance, tu seras immobilisé, etc. Oui, c'est difficile à recevoir ce genre de paroles, puis à les donner aussi. On aimerait toujours profiter des bénédictions, mais des fois, ce n'est pas le cas, le Seigneur est souverain. Et puis, ce serviteur de Dieu, vous rappelez, hein, les anciens, là, il est tombé, plus ses jambes ne marchaient plus, donc pas directement, mais quelques jours après ou quelques temps après, et il était comme paralysé. Et puis la parole prophétique était tellement précise à ce moment-là. Et il a dit, ce pasteur, mais sans cette parole prophétique que je n'ai pas compris à l'instant-là, eh bien, je n'aurais pas su que j'allais sortir du tunnel. Voilà, je dis avec mes mots, mais ce n'était pas tout à fait ça. Et il s'en est sorti. Il a été miraculeusement guéri. Donc, ce n'est pas la prophétie qui lui a donné la maladie, mais c'était un temps d'épreuve. Voilà, le Seigneur lui avait préparé pour cette épreuve. Intéressant, hein? Donc, vous mettez ça dans des sacs, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais je ne rejette pas. J'accueille, si c'est une parole qui vient de toi, je la soumets et je suis d'accord de rentrer. Et puis, il y a d'autres paroles prophétiques. Ça, c'est mon troisième sac. Il est censé être plus joli. Enfin, oui, en plus, il vient du Canada. Il vient de... Voilà. Il y a un sac. Voilà, mon sac plus précieux. Ça n'a pas d'allure, hein, ce que je fais, là. Pas beaucoup. Voilà. Et là, c'est les paroles prophétiques que le Seigneur peut vous donner par d'autres personnes et qui sont précieuses pour vous, qui sont de haute valeur pour vous. Elles ne vont pas forcément parler aux autres, mais elles sont là comme des perles précieuses que Dieu vous donne. Ne les divulguez pas aux autres, mais gardez-les dans votre cœur. Là aussi, travaillez-les, nourrissez-vous-en. Ce n'est pas l'écriture, la Bible reste toujours au-dessus la règle de foi et de vie chrétienne. Mais, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des jalons sur votre vie. Il y a quelque chose qui s'est passé là, tac. Et voilà, pour reprendre un exemple, en fait, le jour de notre consécration, il y a eu des paroles prophétiques qui étaient données. Je les ai écrites, elles sont là, elles sont sur mon cœur en même temps. C'est Marie, la mère de Jésus, qui reçoit l'ange, qui vient la visiter, et puis elle est un peu estomaquée voilà, par cette parole qui lui est donnée. Mais imaginez si elle avait pas reçu cette parole, c'est une parole prophétique, tu vas être enceinte, etc., etc., le Fils de Dieu et tout ça. Comment ça va se passer? Je ne connais pas d'homme. Le Saint-Esprit va venir sur toi. C'est une parole pleine de grâce qui est là. Et puis Marie, il est dit qu'elle gardait ces choses dans son cœur. On a une responsabilité. Les filtres, est-ce biblique? Qui me donne cette parole? Est-ce un prophète reconnu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient là du Seigneur? Est-ce que je peux éprouver cette parole? Je l'éprouve voilà, d'après les critères bibliques, etc. Et vous avez le droit de la mettre à la poubelle. Parce que parfois, il y a des fausses paroles prophétiques qu'on a données, qu'on a accueillies dans l'Église, ou que vous avez peut-être vous accueillies personnellement par quelqu'un qui s'emballait peut-être émotionnellement, peut-être qui avait envie de voir ça dans votre vie, peut-être qui a ou mal compris ce que le Seigneur pouvait lui dire. Ben, ok, vous avez le droit de glisser ça dans la poubelle. Et si le prophète se fâche, ben, vous voyez l'état de son caractère, comme ça. Et Dieu veut qu'on ait des caractères matures pour ceux qui prophétisent et les ministères de prophètes. Voilà. Est-ce que je suis assez clair dans ce que je vous partage? Ça va? 1 Thessaloniciens 5, 28. Ne méprisez pas les prophéties. 20, 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Parfois, dans une parole qui est là, ben, y a peut-être une partie qu'il faut mettre de côté. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais confiance au Seigneur. Est-ce que je dois vraiment analyser tout ça? Est-ce que c'est... Ben, déjà, oui, parce que Dieu, il veut qu'on grandisse dans la foi. Et c'est pas parce qu'un prophète te dit quelque chose que ça vient de Dieu, mais c'est quand Dieu te parle, là, que ça vient de Dieu. Les prophètes peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Et on est responsable pour les anciens, s'il y a des paroles qui sont données à la paroisse, de dire, voilà, ça vient de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait ? Agabus, dans les Actes des Apôtres, reçoit une parole, dans quelques années, il y aura une famine. Les frères et sœurs qui sont en Judée vont souffrir, ils seront éprouvés. Alors peut-être il y en a qui disent, mais c'est quoi cette parole ? Ils ont qu'à faire confiance à Dieu, puis Dieu va pourvoir. Non, la parole prophétique qui est là, accompagnée de sagesse, la sagesse est donnée aux anciens. Ok, on va faire une offrande. Paul, est-ce que tu es d'accord on va récolter dans les églises de notre région de l'argent. Et puis Paul, avec Luc, vous allez amener cette offrande à Jérusalem. Comme ça, et c'est génial, l'église de Jérusalem a pu avoir ce qu'il fallait. Grâce à une parole prophétique éprouvée du Seigneur Jésus. C'est beau ça, hein ? Moi ça me réjouit tout ça. Ça me réjouit. Ben voilà, je crois. En pratique. Quelle heure c'est, les amis ? Oh là. Thérèse, est-ce que tu veux venir avec moi ? Tu veux ou pas ? Oui ? Je la connais, Thérèse, elle dit, oh, pourquoi moi ? Je ne suis pas capable. Rassure-toi, je dis la même chose au Seigneur. Voilà, moi je vous invite à prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce. Merci parce que voilà, tu donnes ton esprit à l'Église. Tu le donnes sans calculer, sans mesure. Et tu veux qu'on puisse être des hommes et des femmes matures qui reçoivent tes paroles à toi. Seigneur, moi j'aimerais ce soir te dire pardon aussi en tant que pasteur pour toutes les fois où j'ai accueilli des paroles qui n'en étaient pas. Et ça a mis comme des jougs, des liens, peut-être sur la communauté. J'ai manqué de sagesse ou avec l'équipe pastorale, on n'a peut-être pas tenu compte de ce que tu nous disais. Ou à l'inverse, on a tenu compte de choses qui n'étaient pas de toi. Et j'accueille ton pardon, Seigneur. J'accueille ton pardon et j'accueille ta grâce ce soir. Parce qu'avec toi, Seigneur, il y a toujours la possibilité de grandir, de revenir. On veut aussi, Seigneur, spirituellement, comme réouvrir la voie prophétique au milieu de nous et l'accueillir pleinement, Seigneur, pas comme un petit filet d'eau, mais comme vraiment un robinet qui s'ouvre à pleine puissance, comme toi tu le veux, Seigneur. Et au nom de Jésus, je veux aussi délier la communauté de vieilles paroles prophétiques qui n'en étaient pas, des paroles trompeuses, des paroles humaines, voire même des paroles qui étaient inspirées par le malin. Je délie la communauté de cela, au nom de Jésus-Christ. Et on proclame une nouvelle liberté pour rentrer dans la parole de Christ, la parole vivante, la parole prophétique de l'instant que nous avons besoin, Seigneur, pour édifier, exhorter, encourager la communauté. Dans le nom de Jésus.